Gisèle Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Bonjour à tous, bonjour Gisèle.
Bonjour Patrick.
Bonne année,
bonjour à tous.
Bonne santé,
meilleurs vœux,
beaucoup de soleil. Voilà. Eh bien, ce 2 janvier 2024, nous allons évoquer le 2 décembre. Le 2 décembre 2023, et oui, ça fait déjà un mois. Et en histoire, puisqu'on va faire un peu d'histoire, cette date nous rappelle un autre 2 décembre, c'est le 2 décembre 1805, où un certain Napoléon livra une grande bataille. Alors, je vous propose de partir de la gare d'Austerlitz à Paris, avec notre invité, M. Denis Di Marino. Bonjour, monsieur.
Bonjour, M. Subreville.
Historien et spécialiste de l'histoire et de Napoléon, et vous êtes en même temps aussi délégué départemental honoraire du souvenir français. Donc, l'histoire est chez vous une matière que vous connaissez ô combien.
C'est dans son ADN.
C'est dans son ADN. J'ai parlé d'Austerlitz. C'est un mot bizarre que beaucoup de Français ont l'habitude parfois d'écorcher. C'est intéressant de voir l'origine. C'est un mot d'origine allemande, excusez-moi, de Nauzedlitz, qui vient du tchèque Novozedlis et qui vient du latin, tiens, le latin qui arrive, Nova Sedes, qui veut dire les nouvelles installations des chevaliers teutoniques. On est en pleine histoire, donc. Et alors, nous allons partir par Austerlitz. Et si vous voulez bien, en cette fin de matinée d'une froide journée de décembre 1805, alors que la brume qui recouvrait la vaste plaine à l'est de la ville morave de Brune, B-R-U, tréma, enfin inflexion, Deuzaine disparaît, la ville morave de Brune disparaît, le soleil, comme aujourd'hui si on peut, éclaire les collines enneigées où fourmillent hommes et chevaux. C'est un moment d'une importance historique. Au cours des dernières années, les nations européennes, voilà l'Europe, nous y sommes, n'est-ce pas, ont regardé avec étonnement et effroi le phénomène que représentait la France révolutionnaire. Tous leurs efforts pour faire face à cette menace ont échoué. Deux coalitions, il faudra expliquer le mot coalition, anti-françaises avaient déjà été mises en déroute. La Russie, bonjour la Russie, l'Autriche, bonjour l'Autriche, s'était retirée de la mêlée en 1801. Et les inflexibles Britanniques, bonjour aux Britanniques, se sont sentis obligés de faire la paix, mais une paix, dirons-nous, autrichienne à Ulm. ULM, Ulm en allemand, sur le Danube, le Donau, et il s'est emparé de la capitale autrichienne un mois plus tard. Donc, cet imbroglio européen, déjà, c'est pas nouveau, nous conduit un peu à fin novembre 1805, en suivant les alliés qui se sentent un peu plus confiants, en suivant l'empereur aussi qui a marche forcée depuis Boulogne, pas Boulogne-Billancourt, mais Boulogne, le camp de Boulogne en haut dans le Pas-de-Calais. Napoléon, voyons que ce que le grand Napoléon va faire. Donc, chère Gisèle et cher ami Denis, vous allez nous éclairer aujourd'hui sur la bataille d'Austerlitz.
On peut faire un petit peu de géopolitique, situer un petit peu où est Austerlitz, où était Austerlitz à l'époque
et
où est Austerlitz maintenant.
Donc de la géopolitique,
un peu de géopolitique,
de la géographie.
Alors on va remonter peut-être en 1805, n'est-ce pas?
Voilà,
Juste un an après le sacre de Napoléon quand même.
C'était un an jour pour jour.
Oui. Voilà.
Alors, la géopolitique européenne,
oui, c'est ça,
de l'époque. Alors, on a la Grande-Bretagne,
oui,
qui est toujours dans son brouillard, de l'autre côté de la Manche. On a une France qui est un petit peu plus grande que celle d'aujourd'hui.
Ah, elle est bien, bien grande même.
Puisqu'elle possédait tous les territoires de la rive gauche du Rhin.
Du Rhin, voilà.
C'est-à-dire la Belgique, et
actuelle, voilà.
Et la Belgique actuelle et la Hollande actuelle. Voilà. Donc la France était quand même
très
un pays très étendu. Bon. Et puis autour de ça, il y avait un autre empire, je dirais un autre pays, qui était la Prusse.
Oui.
La Prusse qui était le nord de l'Allemagne, avec également quelques possessions le long du Rhin.
Du Rhin, oui.
Mais qui ne représentait pas un danger immédiat pour la France, hein, parce que la France était quand même une puissance importante à l'époque.
Oui.
Et puis il y avait un autre empire qui était l'empire austro-hongrois, mais que l'on n'appelait pas austro-hongrois, on appelait le Saint-Empire romain germanique.
C'est ça, voilà.
Et qui comportait, pour schématiser un petit peu, la Tchécoslovaquie, que l'on a connue, c'est-à-dire la Tchéquie et la Slovaquie actuelle, et une partie également de la Pologne, et aussi le nord de l'Italie.
Ah oui, il y avait les États italiens.
Pourquoi ? Parce qu'il y avait le Tyrol, le Tyrol était de langue allemande.
Oui, c'est ça, oui.
Voilà, donc, qui est maintenant passé à l'Italie. Bon, bref. Voilà à peu près les empires qui étaient. Et l'empire, bien entendu, russe.
Bien évidemment.
Qui s'estimait déjà à l'époque un empire sans frontières.
Tiens donc.
Tiens donc.
À nouveau.
Et voilà, et qui avait déjà pris pratiquement les trois quarts du territoire polonais.
Oui.
Voilà. Qui possédait la Finlande.
Ah oui, en plus.
Ah, oui, oui.
Donc, juste donc, côté de la Russie.
On retrouve un petit peu.
Oui. Puis ça recommence maintenant.
Et
hein.
Ça recommence.
Ouais,
bah, on
les Finlandais
on retrouve,
s'éloignaient. Ah, ouais,
on
ouais.
retrouve un petit peu les obsessions russes de
vrai.
Alors, voilà. Alors, il y avait à la tête de l'Empire russe, il faut que je fasse une petite parenthèse là-dessus, un tsar, bien entendu, qui était, comment dirais-je, qui a été accusé par les historiens d'avoir éliminé son père pour prendre le pouvoir.
C'est un peu vrai, hein, peut-être.
Alors, c'est un petit peu vrai. À l'époque, on utilisait beaucoup le poison.
Oui. Oh, hein. Mais ça s'est passé dans d'autres endroits. Hein.
Ça s'est passé dans d'autres endroits. C'était un Romanov, hein, donc son nom c'était Alexandre, bien sûr, un nom typiquement russe, Alexandre Ier, qui était un Romanov, qui était le fils de Dorothée de Wurtemberg, qui était une Allemande, et il était en même temps, ce qui était important, le petit-fils de la grande Catherine de Russie. Voilà. Il avait également réussi à prendre une partie de la Pologne, mais aussi une grande partie de l'Empire ottoman.
Ah, oui,
donc
d'accord.
Il s'étendait.
S'étendait beaucoup.
C'est encore la petite, c'est encore la grande Russie qui ne connaissait pas de frontières. On est en plein dans l'actualité.
Oui,
voilà.
C'est vrai.
Hein mais il avait besoin, et ce qu'il faut comprendre aussi, il avait besoin d'une aura un petit peu différente. Et il s'était dit, si j'arrive à battre un jour Napoléon...
Oui, parce que c'était son grand ennemi.
C'était le grand ennemi. Bon.
Il faisait un peu peur à toute l'Europe. Hein.
Voilà. L'Autriche, c'est un pays qui était calme, qui était... on ne peut pas dire que c'était un pays belliqueux.
Hein. Oui, bon,
il était dirigé par un empereur, bien entendu, François Ier, hein, à ne pas confondre avec le nôtre. Il craignait beaucoup l'armée française parce qu'il avait été déjà battu par deux fois cette armée. Alors,
Il se méfiait un peu.
Alors, il voulait bien
participer.
Il voulait bien gêner Napoléon, mais dans le cadre d'une coalition.
C'est ce qui s'est passé, en fait.
C'est ce qui s'est passé.
La coalition.
Alors, maintenant, retournons à nos amis anglais, qui sont toujours nos amis.
Non, justement, c'est eux qui avaient peur, parce que comme oui. ils étaient à Boulogne,
mais ça, c'est après. Mais... pour l'instant, on a un Premier ministre qui a pris le pouvoir en Angleterre, tout à fait légalement, parce que...
Oui, mais il nous déteste.
C'était, voilà. Mais ce monsieur Pitt, qui était le Premier ministre, était un francophobe convaincu.
Très phobe, oui.
Et il avait une crainte parce que, comme vous le savez, l'armée anglaise, les militaires anglais ont toujours eu une marine très forte, mais une armée de terre très faible.
Mais ils ne pouvaient pas tout avoir.
Ils ne pouvaient pas tout avoir. Et puis, ça ne se prêtait pas. C'était une île.
Hein.
Bon. Donc, il avait peur un jour d'être envahi par l'appétit de Napoléon. Tout ça s'est fait par les différentes raisons.
Puis les inimitiés qui étaient créées.
Mais les différentes raisons de ces pays.
Oui, hein.
Ils n'avaient pas tous la même...
Origine.
Origine, mais bon, ils se sont quand même unis.
Alliés, voilà.
Alors, monsieur Pitt songe et approche... c'est les Russes d'abord, et ensuite il approche les Autrichiens.
Les Autrichiens.
Voilà. Okay. Et il y avait ici les Suédois qui avaient des petites idées, mais bon, ils n'ont pas participé.
Aussi.
Ils n'ont pas participé parce que leur armée était très 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 faible.
Toujours. Hein,
et toujours. Et ils n'ont pas. Ils étaient partis pour...
être neutres.
Pour être neutres, voilà. Mais en fait, ils étaient favorables à la coalition.
Bien sûr, bien sûr.
Et monsieur Pitt, comme tous les Anglais, il ne pouvait pas donner une force militaire d'armée de terre à la coalition, puisqu'elle était très faible. Donc, il s'est contenté de financer... En fait, cette coalition, à l'aide de l'argent,
oui,
tout simplement.
Ça, oui.
Donc, un million, je crois, 250 000 livres,
d'accord.
Qui était énorme à l'époque.
Bah, bien sûr, oui.
Et petite chose, qu'il a fini de payer en 1913.
Ah, mon Dieu!
Parce qu'évidemment, il fallait rembourser.
Plus de 100 ans après.
Il avait fait un emprunt. Donc, voilà. Mais il a payé cette coalition pour qu'elle puisse s'équiper. Bon. Voilà à peu près les puissances qui sont...
Belligérantes.
Voyant la coalition, je retourne un petit peu en arrière aussi, on était en plein dans la paix d'Amiens.
Mais on avait signé la paix d'Amiens avec les Anglais.
Avec les Anglais, mais elle n'a duré même pas un an. Pourquoi ? Parce que... rien n'était satisfaisant. Les Anglais ne voulaient absolument pas que la France s'éternise en Belgique et puis en Hollande,
hein,
parce qu'ils étaient à portée de canon après de l'Angleterre. Donc,
ils voulaient se débarrasser.
Ils voulaient se débarrasser de ça. Ils soutenaient également, ce qui est très important, je ne l'avais pas dit précédemment, ils soutenaient également les partisans du roi Louis XVIII, du futur roi Louis XVIII.
Ah oui,
hein,
bien sûr.
Parce que, bien entendu, c'était la tradition de la royauté française.
C'est ça.
Et contre ce Napoléon sorti de la Révolution.
C'est ça, hein, voilà.
Bon, voilà. Alors ça, c'était aussi une des raisons.
Une de plus.
Une de plus, voilà. Alors, bien entendu, les Anglais sont un petit peu perfides. Pour commencer
la
à casser...
La perfide à Lyon, c'est pas pour rien.
Pour commencer à casser cette paix d'Amiens, je répète, c'était une paix importante, parce que...
Oui, mais elle a été éphémère, quand même.
Elle a été éphémère, parce qu'elle redonnait... Elle repartageait un petit peu, déjà même le monde colonial, puisque la France a récupéré sa Martinique.
C'est vrai.
Sa Guyane. Hein. Les Anglais ont récupéré Ceylan.
Ceylan, oui.
Hein, tant pis pour eux, ils roulent à gauche. si vous voulez, il y avait également une importance aussi européenne, hein, puisque les Anglais devaient quitter Malte, qui n'ont jamais quitté, les Français devaient quitter Rome et Naples, qui n'ont jamais quitté non plus.
C'est ça.
Je crois également l'île de Sainte-Hélène, l'île de
Sainte-Lucie.
Non, non, en Italie. En Italie, là où a été mis l'île d'Elbe,
ah ben oui,
où, a été mis, où a été mis Napoléon,
mis après,
un peu plus tard. Mais personne n'a, en fait, n'a respecté les dispositions de cette paix.
Ah, bon.
Donc, les Anglais, pour provoquer un petit peu les choses, ayant signé déjà la coalition, ils se sont dit, très bien, eh bien, je saisis 1000 et quelques navires, 1200, je ne sais plus le nombre, mais c'était
c'est
au-delà
énorme,
de 1000. 1200 navires français,
oui,
et hollandais qui mouillaient en Angleterre,
oui,
à ce moment-là.
Voilà.
Et bien entendu, réaction de la France.
Par représailles.
Par représailles, on a arrêté tous les Anglais qui se trouvaient sur le territoire français. On les a mis en garde à vue.
Voilà. Tiens donc.
Bon, mais à l'époque, c'était un peu plus solide, la garde à vue.
Oui.
Donc, bon, ça a créé, évidemment, l'étincelle qu'il fallait pour dénoncer cette paix.
Et je pense que tout le monde était... Enfin, les Anglais et les Français, voilà, étaient d'accord pour dénoncer cette paix.
Bien entendu.
Voilà,
Et Napoléon, voyant ça, s'est dit... Alors, c'est là où l'histoire varie un petit peu. Napoléon a placé une troupe très importante, hein,
voilà,
je crois la
ça.
Moitié de son armée,
oui,
à Boulogne-sur-Mer,
oui,
au camp de Boulogne,
oui,
camp de Boulogne, avec l'idée... Alors, est-ce que ce n'était pas une feinte aussi, parce qu'il était...
Il était assez rusé.
Il était assez rusé, avec l'idée peut-être d'envahir l'Angleterre.
Oui, oui. Bah,
qui avait une armée de terre faible,
oui,
donc c'était peut-être intéressant.
Oui. Moi, je pense qu'il avait peut-être ça, c'était peut-être une arrière-pensée.
Mais bon,
on, sait pas.
On verra après que ce n'était pas tout à fait ça.
Non, non.
Alors, voyant la coalition qui se formait,
qui s'est créée, oui,
il a commencé, et c'est là le départ... De la fin,
oui, hein,
pour,
oui,
la guerre d'Austerlitz,
oui,
pour la bataille d'Austerlitz, il sort ses troupes de Boulogne,
oui,
et il dirige vers l'est, vers l'Alsace déjà, en marche forcée.
C'est ça.
Alors, en marche forcée...
Mais c'était incroyable. Parce
c'était
que
de 30 à 70 km
par jour. Avec des bardas de 40 kilos.
Voilà. Les mais il faut se rappeler une chose, une subtilité. Napoléon avait créé une unité
spécifique,
mobile, de son armée, qui s'appelait le train des équipages.
Le train, voilà, c'est ça.
Et le train des équipages, c'était donc des grands chariots qui amenaient la viande, le riz...
Et toutes les munitions.
Et toutes les munitions, et notamment à l'époque, pour les artilleurs, les artilleurs fonctionnaient la poudre noire.
Ouais, oui.
Les autres aussi, d'ailleurs, avec les fusils.
Il fallait charger,
voilà. Et donc, cette logistique, on dirait maintenant la logistique, faisait que les troupes, elles pouvaient avancer.
Oui, parce qu'elles étaient suivies.
Et la logistique suivait.
Et les doublait.
Et elles-mêmes les dépassaient.
Et les doublaient. Et quand le soir, ils arrivaient, le bivouac était monté.
Les bivouacs, les camps étaient montés.
Ils pouvaient s'alimenter.
Les popotes étaient faites. Ouais. Donc, c'était
une belle stratégie,
c'était
ça.
C'était une très belle stratégie que les Allemands nous ont enviée pendant très longtemps. D'ailleurs, ils ont fait la même erreur pour leur campagne de Russie en 1941, ils ont trop avancé et derrière, ça ne suivait pas.
Ben oui, c'est ça, en fait.
Bon, voilà. Donc, donc vous voyez, on ne prend pas toujours les leçons de l'histoire.
C'est ça, voilà.
Voilà. Donc, Napoléon va avec son armée, avec ses principaux généraux, les Lannes, les Murat,
oui,
etc.,
oui,
etc. Une parenthèse, Murat était un ex-sous-officier,
oui,
qui avait eu du mal à passer son grade de sergent. Et là, il se trouvait comme général.
Ah oui.
Parce qu'il connaissait le terrain.
Ah, c'est ça, voilà.
Voilà.
Ah,
oui. Et il avait été donc monté très rapidement, lieutenant, capitaine, etc. Et puis, il a terminé comme général. Et ces gens-là étaient, tous des personnages qui étaient très reconnaissants pour Napoléon, parce que Napoléon les avait
fait grandir. Oui, bien sûr.
Ils leur avaient assuré un avenir. Voilà. Donc, voilà à peu près où en est l'Europe, et voilà les premières prémices des déplacements vers
Austerlitz.
Vers Austerlitz. Enfin, ils ne savaient pas que ça serait Austerlitz.
Non.
Ils ne savaient pas. Pour l'instant, ce qu'ils voulaient, c'est battre les Autrichiens.
Voilà.
Battre d'abord les Autrichiens, après les Russes. On ne fait pas en même temps.
Non.
Parce que les Russes, c'était 314 000 hommes. C'est bizarre. C'est un chiffre qui me dit quelque chose qui se passe en ce moment. Non.
Mais, oui.
Non, c'est pas. Oui, c'est un petit peu ça. C'est 300 000 hommes qu'on envoyait à la bataille. Hein, parce
oui,
que, bon,
mais c'était de la chair à canon. Oui.
C'est de la chair à canon déjà à l'époque.
Ça revient, mais ah, ça leur a été malheureusement efficace.
Ça leur a été
ah,
efficace.
Bah oui.
Oui.
Dans certaines guerres, oui.
Oui.
Donc le voilà la situation de l'Europe géographique, voilà de l'Europe de l'histoire également, voilà. Comment on va arriver à cette bataille d'Austerlitz? Comme je vous ai dit, Napoléon attaque d'abord les Autrichiens. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, les Autrichiens, dès la signature de la coalition, comme ils n'aimaient pas beaucoup les Bavarois qui leur ressemblaient énormément...
Et puis que les Bavarois n'étaient pas pour les Autrichiens.
Voilà. Et n'étaient pas pour les Autrichiens. Ils avaient un pays indépendant qui était pro-français.
Voilà.
Parce qu'on avait le même esprit, parce que beaucoup de choses. Et des choses qui se tiennent toujours. Hein. Le français, il a beaucoup de liens avec l'Allemagne du Sud et très peu avec l'Allemagne du Nord, par philosophie, je dirais. Hein. L'Allemagne du Nord est protestante et l'Allemagne du Sud est catholique.
Mais la Bavière
l'Allemagne du Sud, bon, il y a des gens à cheveux noirs aussi, donc c'est pas pareil. Hein. C'est pas l'allemand tel qu'on l'envisageait à l'époque. Donc, les Bavarois étaient pro-français. Donc, il est venu soutenir les Bavarois qui avaient été occupés par les Autrichiens.
Les Autrichiens, donc il est venu et les aider.
Alors, là, il y a une... Je peux continuer
Oui, après, on va partir en musique.
Après, on part
on
en
finit
musique.
Là, on finit.
Alors,
quelques minutes.
Je termine ce passage. Donc, les Français traversent le Rhin.
Ils sont chez eux.
Ils sont chez eux déjà.
Oui, c'est ça, ils sont chez eux.
Et alors, ils traversent, ils passent au nord de la forêt noire qui jouxte le Rhin.
Oui, c'est ça. Oui.
Les Vosges, la forêt noire et le Rhin au milieu. Et ils passent ce que pensaient les Autrichiens, qu'ils allaient être attaqués sur la région de Ulm, sur le Danube.
Ils attendaient là.
Voilà. Et ils attendaient là. Et Napoléon, bien sûr, il a envoyé son petit Murat pour faire le petit imbécile avec sa cavalerie. Voilà. Il est passé de droite à gauche, de droite à gauche, de droite à gauche, devant les Autrichiens
qui attendaient
l'attaque.
Oui, c'est ça.
Mais non, le gros de l'armée de Napoléon est parti vers l'est, a contourné les Autrichiens et les a attaqués par derrière.
Voilà, ils ont été pris en étau.
Donc, ils ont été pris. Ils se sont réfugiés dans une localité qui n'est pas d'ailleurs bavaroise, qui est du bas de Württemberg, Ulm. Parce que maintenant,
c'est le Rhin qui fait la limite.
C'est le Rhin qui
le Danube qui fait
le Danube qui fait la limite. Parce que de l'autre côté, il y a Neu-Ulm maintenant et qui est bavarois.
C'est bavarois.
Voilà. Hein.
Important.
Donc, mais bon, on dit Ulm, c'était c'était à l'époque à la Bavière.
Voilà.
Alors, il a encerclé les Autrichiens qui n'ont eu que comme seule solution de rentrer dans la ville de Ulm. Pour s'y enfermer, mais évidemment, après, ils ne pouvaient plus manger.
Hein.
Bon. donc, ils se sont rendus. Ils se sont rendus. Et c'est Karl Mack, hein, qui était le général autrichien, qui n'avait pas vu la petite chose.
Mais il n'avait pas compris.
Il n'avait pas compris. Et alors, il faut se dire aussi une chose. Je fais encore la dernière petite parenthèse avant la belle musique qui m'attend, parce que je l'adore. Karl Marx était entouré de l'état-major autrichien, disons.
C'est rigolo, Karl Marx.
Oui,
confus.
Et Karl Mack était entouré d'officiers d'état-major et de beaucoup d'officiers dans les régiments qui ne valaient pas grand-chose parce qu'ils achetaient leurs charges à l'époque.
Ah, d'accord.
Comme ils étaient nobles, ils achetaient leurs charges. Moi, je veux ce régiment. Prends-le.
Voilà,
Donc, ils n'avaient pas d'expérience militaire.
Aucune stratégie militaire.
Voilà. Ils n'avaient pas la connaissance de ce que devait être la conduite de troupes.
Oui, c'est ça. Hein,
qui est quand même, qui exige beaucoup
C'est important.
Voilà. Beaucoup de savoir-faire. Mmh. Hein, voilà. Voilà.
Nous partons avec la marche consulaire, si vous le voulez bien.
Ah, mais avec grand plaisir. C'est une très belle marche.
Thank you.
merci, c'est du grand Guillardel, c'est remarquable. Mais il y a peut-être une histoire, mon cher Denis, sur cette marche.
Alors,
il y a encore beaucoup à dire, ce que les Français ne connaissent pas d'ailleurs.
Voilà. Alors, cette marche est toujours exécutée en général par la garde républicaine, qui la joue merveilleusement bien.
Oui.
Mais bien
c'était
d'autres.
Elle qu'on vient d'entendre.
Ah, bah, c'est... ah bah tu vois, je...
voilà. Voilà, c'est super.
C'est bon. Superbe.
Alors, il faut se dire qu'elle a également une autre histoire, c'est que un parachutiste français s'est expatrié à Londres en 1940, qui s'appelle André Ziernelde, en a fait un chant également. Un chant.
Il a mis des paroles.
Il a mis des paroles qui sont très belles aussi et qui ont été et ce chant a été adopté par l'école militaire interarmes. Qui forme les officiers, comme sont formés également les Saint-Cyriens.
Voilà. Hein,
l'école militaire interarmes, ce sont des sous-officiers qui passent dans cette école pour passer officier plus tard. Et ils ont ce chant comme chant de reconnaissance. Oui, voilà. Mais il y a également une autre utilité. Très souvent, et dans les régiments... je dirais opérationnel, hein, du genre des régiments que l'on envoie outre-mer très souvent par leur professionnalisme. Ils servent cette musique, donc donnée de façon identique par la garde républicaine, sert également pour la revue des troupes. Quand un colonel passe en revue ses troupes, comme c'est une marche qui est lente, hein, vous avez remarqué, ce n'est pas le pas cadencé habituel, eh bien, il peut passer en revue les troupes lentement en faisant tout le carré de son régiment. Voilà. Ça, c'est important à savoir parce que c'est encore traditionnel.
D'actualité.
Voilà.
C'est traditionnel. Merci pour toutes ces précisions.
Voilà.
Parce que peu de gens le savent.
Et non, peu de gens le savent.
Et oui. Et donc, nous quittons la ville de Ulm,
voilà.
Qui est une très belle ville, qui a un très beau musée du pain. C'est peu connu, ça. Le musée du pain, il y a l'Amérique et puis Ulm. Le pain est très important, comme vous le savez.
Ouais.
Et donc, au bord du Danube. Et il y a encore l'endroit où la bataille a eu lieu.
A eu lieu.
Voilà.
Oui.
Le champ de Mac, M-A-C-K.
M-A-C-K.
Voilà, c'est bien. Et puis il y a un clocher, il y a une cathédrale aussi, avec une hauteur la plus haute d'Europe.
Oui.
Et je me souviens, pour y monter, c'était 768 marches allées et les mêmes bords.
Redescendre, bien évidemment.
Redescendre, oui. Mais cela veut dire que ce n'était pas vraiment évident.
Oui, c'est vrai.
Voilà,
c'est
d'autant plus que c'est un colimaçon.
Oui.
Et il fallait avoir la santé bien accrochée.
Le cœur bien accroché.
Oui. Nous poursuivons avec l'empereur.
Voilà.
Alors voilà. Les Autrichiens du général Mack se rendent aux troupes françaises dans Ulm. Mack rend son épée, d'ailleurs, à Napoléon même, je crois.
Oula.
Oui.
Et
il y a un tableau qui montre.
Il y a un tableau qui montre ça, oui. Et les soldats sont faits donc prisonniers, les soldats autrichiens, et sont rapatriés, enfin sont non pas rapatriés, mais sont dirigés vers la France pour être prisonniers. Voilà. Mais les officiers, ils ont un traitement de faveur.
Comme toujours.
Ils sont libérés.
Pas toujours.
Ils sont libérés contre la promesse de ne plus attaquer des troupes françaises.
Bien sûr.
Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait, d'ailleurs.
Ils ont tenu parole.
Donc, notre Napoléon et ses généraux partent maintenant pour occuper Vienne.
C'est ça, ils arrivent jusqu'à Vienne.
Ils arrivent jusqu'à Vienne. Mais avant, il y a un défilé sur le Danube qui s'appelle le défilé de Dürnstein. Un défilé donc, très étroit, qui se prête aux embuscades et puis bon, etc. Et là, les Français sont en minorité par rapport aux troupes autrichiennes qui restaient. Peu importe, la furia francese, comme on dit, fait qu'on bat encore les Autrichiens à ce défilé.
Oui,
bon. Donc, la voie est libre pour Vienne, parce que c'est à quelques kilomètres après. Et arrivé à Vienne, alors, Deuxième petite ruse, cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est pas Murat, mais on envoie des officiers supérieurs parce qu'il y a un pont pour accéder à Vienne. Oui. Et le pont, il est bourré de tonneaux de poudre pour le faire sauter et pour que les Français puissent pas rentrer. Et les envoyés, les plénipotentiaires de Napoléon s'approchent des Autrichiens et avec le drapeau blanc.
Ils se rendent.
Et les Autrichiens se frottent les mains et disent oui, « Pauvres Français, ils se rendent déjà. » Et il leur dit « Non, non, mais la paix est signée, c'est fait. Tout le monde est d'accord, on peut rentrer dans Vienne. » Bon, mais les Autrichiens s'en vont.
Et ils les laissent passer.
Il devait être l'heure du déjeuner.
Laisse passer les Français.
Donc le pont n'a pas sauté, Vienne a été occupée.
Voilà.
Donc c'était encore une des grandes victoires napoléoniennes parce que il le faisait, lui qui avait le souci de ses hommes et de la vie de ses hommes, contrairement aux Russes anciens et actuels, il avait réussi un coup de maître en occupant la ville de l'ennemi sans coup férir.
C'est ça, voilà.
Voilà. Alors ça, c'était important. Alors là-dessus, bien entendu, tenu par des promesses d'une coalition, nos Russes, qui sont dirigés par Mikhaïl Koutouzov, qui est, je vais être méchant, qui est le Eltsine de l'époque. C'est-à-dire, il était à peu près à 2 bouteilles de vodka par jour.
Ah, c'était un tonneau sur pattes.
Et il avait une très grande attirance pour les femmes.
Ah !
Ce qui n'est pas interdit, ce n'est pas un défaut.
Bien évidemment.
Ça dépend des femmes. Voilà. Et cet homme-là était quand même un bon chef. C'était un bon chef.
Quand il était pas ivre.
Tenez-vous bien, je vais vous faire la petite parenthèse. Comme il a perdu à Austerlitz, le tsar n'était pas très content. Alors il l'a nommé gouverneur de Kiev en Ukraine.
Ah tiens donc, on retrouve.
C'est marrant. Voilà. Ouais. Alors là, il s'est adonné avec les belles ukrainiennes et puis la vodka il a continué sa petite vie. Ça, c'était la petite parenthèse. Oui. Mais Koutouzov, compte tenu des liens qu'il avait tissés avec la coalition, bien entendu, il vient au secours des Autrichiens. Donc, il essaye de foncer sur les troupes françaises, mais il s'aperçoit très vite que parce que les Français avaient une cavalerie excellente, très rapide, aussi en plus de ces trains des équipages, ils avaient également une infanterie qui tirait très bien, qui était très bien organisée, surtout une artillerie parce qu'il avait quelques 189 canons qui sont énormes à l'époque. Donc, qui étaient hippomobiles, on tirait avec... les munitions derrière sur la charrette.
D'accord.
En même temps. Il y avait 18 hommes pour traiter
s'occuper
ça.
Donc,
tout ça, ça fait que les Koutouzov...
vous sentiez un peu pris à la gorge,
Pour pas être encerclé, qu'est-ce qu'il fait? Il repart vers l'Est, dans son pays, en disant, c'est pas possible. On rentre à la maison.
Voilà.
Alors, il est rattrapé, c'est Napoléon. Il veut le piquer. Alors, pendant ce temps-là, je vous avais parlé tout à l'heure de la Prusse. La Prusse était moins chaude pour participer, donc. La Suède a complètement oublié qu'elle faisait partie de la coalition. Donc, il ne restait plus que ce Koutouzov avec son Alexandre de tsar dans cette coalition, en fait. Et il ne restait plus qu'un pays.
On peut donner le mot de coalition. On comprend, mais l'origine du mot coalition.
Je te laisse l'expliquer.
Non,
quand même.
C'est une entente entre plusieurs pays. Voilà.
Voilà, c'est une entente entre plusieurs pays. Donc cette coalition, c'était
coalition,
et qui était cette union entre ces trois pays.
C'est ça.
Bon, alors
mais qui a tourné court.
D'ailleurs, les Autrichiens devant la fuite de Kutuzov.
Ah, oui.
Ont eu une
attitude.
Non, ils ont eu des phrases de dépit en disant les Anglais, ils n'étaient bons que pour payer, mais ils n'ont pas participé à la guerre comme d'habitude.
Oui,
ils mettent les autres en avant.
Oui. Hein, c'est un peu vrai.
Et les Russes, dès lors que ça commence à tirer,
ils se sauvent.
Ils se sauvent. Alors Napoléon, évidemment, en voyant ça, il poursuit l'ennemi, Kutuzov. Et le pauvre Kutuzov, bon, il les a vraiment à moins d'une nuit d'écart.
Ah oui,
hein,
oui,
donc
oui. C'était chaud.
Cette cavalerie et cette voilà. Et Kutuzov, pour trouver un petit peu
de réconfort,
il se met près d'Austerlitz. Hein. Austerlitz, c'est près de la ville morave de Brno. Brno, hein, qui est une très 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 belle ville pour ceux qui la connaissent. Je vous le dis, c'est une ville magnifique, beaucoup de baroque.
Hein. Ah oui.
Et la petite parenthèse, la Moravie, c'est la deuxième ou troisième province de la Tchéquie actuelle.
Ah oui.
Vous avez les Sudètes, qu'on connaît depuis la guerre de 40, hein, qui étaient à l'ouest de la Tchécoslovaquie de l'époque, avec des habitants de langue allemande, que Hitler a revendiqué, bien entendu.
Oui, c'est ça. Oui.
Après, vous avez la Bohême avec Prague. Mmh. Hein. Et plus à l'est encore, vous avez la Moravie. Mmh. Et après, vous avez la Slovaquie.
C'est ça, voilà.
Et ces pays-là faisaient partie de cet empire autrichien.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Mmh.
Donc, Napoléon, il est tranquille, il n'y a plus les Autrichiens. Donc, il fonce et notre Kutuzov se réfugie dans tout près d'Austerlitz, tout près de Brno.
Voilà, hein,
et sur un endroit qui est un plateau.
Oui.
C'est un militaire, donc lui,
il
c'est les hauteurs.
Ça, voilà,
toujours,
comme ça, il pouvait
pour voir. Voilà.
Oui, oui.
Mais bon, malheureusement, il ne développe pas complètement son artillerie. Erreur.
Mm-hmm.
Et à un certain moment, Napoléon, il emporte tout.
C'est ça. D'ailleurs, les généraux français chargeaient en criant « Faites pleurer les dames de Saint-Pétersbourg !»«
Faites pleurer les dames de Saint-Pétersbourg !»
Ah, c'était alors et voilà.
Pourquoi ? Parce que Saint-Pétersbourg, c'était le lieu culturel, qui était la finesse, qu'il est toujours d'ailleurs.
Toujours.
Il est toujours. Qui faisait un petit peu, j'allais dire, un mot trivial, qui faisait un peu la pige
à Moscou.
À Moscou, c'était des moujiks.
Oui, pas plus.
Mais Saint-Pétersbourg, c'était la cour, c'était des gens qui étaient cultivés, où on parlait français.
C'est vrai, à l'époque, on parlait français.
Ouais, voilà. Ouais. Donc, Kutuzov est obligé de quitter son plateau de Pratzen, le plateau de Pratzen, parce que les Français s'y installent.
Voilà, c'est ça.
Et ça va être l'objet d'une autre ruse.
Ah oui.
Napoléon, au bout d'un certain temps, retire une partie de ses troupes de Pratzen. Et les Russes se disent, on va reprendre.
Ah ben oui, parce
on va reprendre le plateau.
Ils sont en train de se sauver.
Sauf qu'il avait des troupes qui étaient un petit peu loin du plateau et il les a fait courir.
Oui.
Alors, arrivés au plateau,
ils étaient
essoufflés. Mais c'est vrai, c'est l'histoire le dit. Ils étaient complètement essoufflés. Ils étaient dans l'incapacité
d'attaquer
et de se battre.
Ouais, ouais.
Voilà. Et comme il y avait encore des troupes russes qui étaient sur le plateau, elles ont fui, donc elles descendaient pendant que les autres montaient et soufflaient. Donc voilà, ça a donné la catastrophe.
Oui.
En peu de mots, hein, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si je devais tout vous expliquer...
On sera encore là demain.
Oui, demain, je pense que vous serez encore là. Parce que n'oubliez pas que cette bataille d'Austerlitz est enseignée encore actuellement.
Toujours.
Encore dans toutes les grandes écoles militaires
du monde.
Américaines, britanniques, françaises, bien entendu, allemandes aussi. et autrichienne, parce que oui. Il faut bien qu'ils l'apprennent.
Mais, oui.
Mais dans toutes les grandes académies militaires du monde, cette bataille d'Austerlitz. Alors, mais ce n'est pas la fin de la bataille. C'est un épisode.
Un épisode, oui.
Et Napoléon intervient de nouveau avec ses ruses grossières.
Oui, qui fonctionnent.
Qui fonctionnent. Il fait allumer des feux dans tous les camps français.
Voilà, c'est ça.
Et les Russes qui observent ça à la lorgnette en disant...
Ça y est, ils sont en
train,
de brûler
leur camp.
Oui,
parce qu'on brûlait les camps quand on partait. Hein, pour pas
pour
laisser
rien
de traces,
laisser, oui, pour voilà. Rien laisser.
Et ils ont pensé que tous ces flambeaux que tenaient les soldats, c'était... Parce qu'ils allaient quitter ils partaient. Et pour augmenter encore cette ruse, il envoie un dénommé, qui était son aide de camp qui cirait ses bottes, un dénommé Savary, vers les Russes, encore avec le drapeau blanc, mais ils n'ont pas compris hein, ça. Et qui leur dit, bah, écoutez, est-ce qu'on pourrait éventuellement discuter d'une paix entre nous bon,
voilà.
La Russie, c'est grand, c'est bon, etc. Alors, les Russes, ils sont tout contents.
Content.
Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, oui, bah, écoutez, on va réfléchir. Et puis le lendemain, ils attaquent. Oui. Erreur.
Erreur
funeste, parce que Napoléon avait mis plein d'hommes à l'arrière, voilà. En réserve, et le moment où les Russes ont attaqué, eh ben, ils ont fui.
C'est
ont fui, parce que comme ils savent le faire, on le voit un petit peu aussi actuellement. Ils ont fui, et les officiers qui étaient évidemment à cheval leur disaient de ne pas fuir.
Oui.
Mais ils le disaient en fuyant eux-mêmes.
Mais eux, c'est ça, voilà.
Et alors, ces pauvres, nous sommes en hiver, n'oubliez pas.
Ah oui, ah.
Nous sommes bien à l'est. Il n'y a pas encore le changement climatique.
Mais oui.
Donc, les étangs qui entourent, c'est un peu comme la Dombe. Hein.
C'est
plein d'étangs.
Oui,
et en bas du plateau. Et ces étangs sont gelés.
Mmh.
Donc, bah, les pauvres Russes,
ils essayaient de se
sauver. Ils se sauvaient par là. Et la fameuse artillerie française, elle a tiré pas sur les hommes.
Non, mais pour faire éclater...
Elle a fait éclater la glace et ils se sont noyés là-dedans.
Ouais.
Voilà ce qui s'est passé. Ouais. Avec, on a retrouvé des chevaux, on a retrouvé des cadavres, etc. Des canons. Aussi,
ah mais bien sûr.
Des canons aussi qui ont été exposés, dont l'un est exposé aux Invalides.
Exact.
Ah, d'accord.
L'un aux Invalides.
Aux Invalides.
Tout à fait.
Voilà. Donc voilà, la bataille d'Austerlitz. Alors, la bataille d'Austerlitz a permis à Napoléon de garder toute l'Italie, pratiquement.
Ah, oui, c'est ça.
Sauf Naples, mais qui était donnée à quelqu'un de sa famille, je ne me souviens plus.
Ses frères.
Oui.
Non, on va faire une petite pause musicale.
Oui,
maintenant.
Musicale, mais avec plaisir.
On va penser et voir le champ de bataille tel qu'il est, sous la neige et le sang, parce qu'il y a beaucoup de monde.
Oui.
Les deux côtés, bien sûr.
Oui.
Alors, un petit peu de musique avec Gounod. Merci.
Thank you.
Nous revenons sur le plateau de Pratzen, voilà, qui est toujours enneigé.
Voilà.
Les cavaliers sont par-ci, par-là. L'empereur oui. observe avec sa...
Voilà, sa lorgnette.
Sa lorgnette.
Napoléon a utilisé plein de ruses hein, pour sur
c'est
ce
vrai,
plateau.
Oui.
C'est-à-dire qu'il a mis une très grande partie de sa cavalerie puissante en réserve,
oui.
hein, très loin,
oui.
comme ça. Hein, les chevaux, ils cavalent vite. Hein. Il a réussi par ses ruses, également aussi par des escarmouches. Il fonçait sur l'ennemi et il faisait semblant d'être faible, donc il se retirait.
Oui.
Donc les Russes pensaient que...
Oui, c'est hein, ça, ils ne savaient plus à
voilà.
qui ça se vouait.
Voilà.
Escarmouche,
donc,
qu'est-ce que c'est, escarmouche?
Escarmouche,
c'est...
C'est tout simplement
une petite attaque
frontale.
Voilà.
C'est bien, non pour les auditeurs.
Bien sûr, une petite attaque frontale, c'est une forme de harcèlement. Hein,
c'est ça.
Et se retirer tout de suite après pour faire croire à l'ennemi qu'on a une faiblesse et pour qu'il nous poursuive.
Ben oui.
Et on l'attend en embuscade quelque part.
Et c'est ce qui se passait. Voilà.
Et c'est ce qui se passait. Voilà.
C'est bien.
N'oublions pas aussi que ce qui est un petit peu traditionnel dans l'armée russe, c'est une armée, comme je vous ai dit, où les officiers, comme les Autrichiens, étaient très mal formés.
Oui, oui.
Hein, pour pas dire pas du tout formés,
oui,
parce que c'était des nobles.
Oui, parce qu'ils achetaient leur charge.
Aussi, c'est tout. Mais c'était aussi une armée qui se faisait connaître par l'absence d'un corps de sous-officiers. Et l'absence du corps de sous-officiers est encore actuellement.
Ah bon?
Comme quoi les
ça ne sert pas de leçon.
Non, c'est-à-dire ce sont les colonnes vertébrales, les piliers d'une armée sont les sous-officiers,
oui.
parce qu'ils tiennent les hommes.
Mmh.
Hein. Les hommes suivent un sous-officier qui part devant. Sinon, s'il n'y a personne, ils ne partent pas. Ou alors ils partent mal. Voilà. Donc, on retrouve un petit peu les mêmes choses dans l'armée russe d'aujourd'hui, ce qui est quand même sensationnel au bout de deux siècles.
Voilà.
Il faut aussi dire une chose pour terminer un petit peu ce passage. Bien entendu, ce ne sont ni les Russes, ni les Autrichiens, ni personne qui viennent demander la paix.
Oui, parce qu'en fait, c'est ça.
Alors, on envoie le prince du Liechtenstein, le plus petit pays du coin, et qui arrive par sa connaissance du français également, parce que tous les nobles parlent français.
C'était l'époque. Oui.
Et qui vient demander donc la paix. Et une paix sera ce qu'on appelle maintenant la paix de Presbourg. La paix de Presbourg.
Bratislava.
Maintenant, ça s'appelle Bratislava. D'accord. C'est la capitale de la Slovaquie.
Voilà.
Comme quoi, je vous dis, vous voyez, hein, j'ai bien fait de vous parler au début.
Ah oui, pour situer.
Sudète, Bohême, Moravie et Slovaquie.
Et oui, c'est complexe. Bratislava est
Bratislava.
Une très belle ville.
Et c'est aussi une très belle ville. Je vous incite à y aller.
Dans ces pays, il y a de belles villes.
Mais très, très belle. Et cette paix de Presbourg fera que l'Italie devient devient française.
Oui.
Hein, parce qu'on pique tout ce qui était les États du nord de l'Italie qui appartenaient à l'Autriche. Hop, c'est chez nous.
C'est ça.
Hein, bon. Et c'est en fait, ça marque aussi la fin de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique.
Voilà.
Au profit d'une Autriche-Hongrie.
Ah, ça, voilà, d'accord.
Voilà, parce que la Hongrie reste fidèle à l'Autriche, pour des raisons d'ailleurs économiques à l'époque, comme maintenant,
oui.
pareil.
Ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé. Les gens ne savent pas.
Ils
sont surpris.
Non, mais comme quoi l'histoire ne sert pas toujours.
Voilà. Et les Polonais qui se renforcent un petit peu en disant, eu égard à la faiblesse de la Russie, peut-être qu'on pourra retrouver notre autonomie, parce que la Pologne, c'est un pays qui vit de temps en temps.
Oui, c'est vrai. Par à coup.
Et par à coup, voilà. Mmh. Hein. Donc, c'est important de connaître tout ça. Hein. La Prusse s'est couchée. Elle n'avait plus envie de faire quelque chose.
Oui, hein. C'est ça.
Voilà. Donc, elle nous aura bien en 1870.
Mais oui,
donc, ça, c'était une autre affaire. Oui,
elle sera présente à Waterloo, quand même. C'est... 1815. Blücher est arrivé.
Pas en grande force. Non, plus.
Non. Enfin, après ouais. De 1815 ouais. à 1864,
oui.
c'est le silence complet. Oui, elle réforme.
Que... Oui, elle réforme et elle se bat contre l'Autriche.
Voilà. Ah oui, c'est ça, voilà.
Voilà.
Oui, oui.
Mais après, 66.
Sadova.
Oui, mais je dis, moi, 1815,
1866.
Non, non, les duchés
oui.
danois,
oui.
1864.
Tout à fait. Tout
et
à
après, fait. 66. Oui.
Parce qu'entre-temps, oui. grâce à cette paix, Napoléon avait les mains libres pour aller vers les États allemands. Vous savez, oui, il y avait oui. des duchés, des comtés, de partout. C'était une mosaïque
d'États. Il y avait plein d'États.
C'était, il n'y avait pas d'Allemagne.
Non, non, elle n'existait pas.
Elle n'existait pas. L'Allemagne, non. elle est 1871.
Oui, alors,
l'unité
alors,
allemande.
La guerre de 70, quoi.
L'unité allemande.
Avec la
Mais
Prusse.
Oui, c'est ça. Voilà.
Deutsche Einheit. Hein.
Voilà.
Donc, c'était 1871, ouais. à Versailles, en plus. Bon.
Bah, oui, mais
on
ça,
aurait
c'est,
pu l'éviter, voilà. celle-là. Mais bon,
oui.
mais c'est un... c'est, donc, ça donne les mains libres à Napoléon. Pourquoi ? Parce que la France avait une excellente presse avec la Révolution. C'était des gens qui comprenaient pourquoi on avait fait la Révolution. Il y avait très peu d'inimitié contre les Français.
D'accord.
C'était au contraire, c'était un pays phare.
Ah, d'accord.
Qui avait fait la Révolution, qui avait abattu un ordre séculaire.
Oui, divin.
Bon, avec toutes les imperfections,
oui,
parce
oui.
que c'est, la France, c'est quand même un pays qui a fait la Révolution, hein, qui a décapité un roi et la famille royale, et puis qui a nommé après un empereur.
Oui, c'est vrai. Qui s'est autoproclamé, quand même.
Qui s'était autoproclamé. Mais
oui.
bon, c'est quand même le... Mais c'est important. C'est important. Alors,
mais
vous voyez.
Ça a réveillé le sentiment national allemand
oui,
et prussien.
Voilà.
Et prussien.
Parce
ça
que
aussi.
L'Allemagne a été occupée par les Français.
Parce que l'Allemagne, oui. après, a été occupée.
Et ça, on ne l'a pas vu.
Après, quand on l'occupait, c'était mal.
Ben oui, c'était
ben
plus
oui,
mal.
Parce qu'on enlevait
bien.
La
ben
liberté.
Oui.
Ces gens-là étaient habitués à avoir un comte, un duc, puis etc. etc. Mmh. Donc, on leur a enlevé. Et c'est là qu'ils sont devenus après anti-français.
Ben oui.
Et
oui.
c'est là qu'est venu cet esprit allemand.
Oui.
Voilà.
Ah oui. Ah
voilà.
Oui.
Donc, c'est la Révolution française qui indirectement...
Je n'en veux pas à Napoléon,
non.
parce que j'ai l'aigle napoléonien à ma cravate.
Oui.
C'est bien.
Aujourd'hui, je ne pouvais pas faire.
Il y a aussi des aigles prussiens, attention.
Oui, non,
rouge
celui-là,
et noir.
C'est Napoléon.
C'est pas le même. C'est pas le même.
J'ai
hein,
dit,
pas le
j'ai
même.
Dit aussi.
Pas le même.
J'ai dit aussi.
Alors, une dernière petite chose pour l'histoire. Compte tenu de cette victoire brillante, parce
oui.
qu'elle est brillante,
oui.
elle est sans appel. L'école militaire de Saint-Cyr,
oui.
ce qu'on appelle l'école spéciale militaire, l'ESM Saint-Cyr. Saint-Cyr, parce qu'au début, elle a été placée dans les années 1800 à Saint-Cyr, en région parisienne.
Ah oui,
voilà,
c'est pour
tout.
Ça.
C'est pour ça qu'on l'appelle Saint-Cyr.
Oui.
Mais
après,
c'est l'école spéciale militaire. Voilà.
Oui, d'accord.
Et cette école, le 2 décembre, fête le 2 décembre.
Ah.
Et c'est ce qu'on appelle la fête du 2S.
C'est-à-dire ?
Le 2S. Pourquoi 2S ?
Hum.
Parce que le début de la scolarité des Saint-Cyriens, ben comme toutes les facultés, en fait,
oui,
c'est
oui.
une université militaire, mais c'est une université, commence en octobre. Donc, A, en octobre, U, en novembre,
oui.
et S, en décembre.
Décembre voilà.
Donc, le 2 décembre, c'est devenu le 2S. Et on dit
oui.
le 2S. Et là, on fait à Saint-Cyr une grande commémoration de la bataille, hein, qui est une bataille hein, qu'on a gagnée. Donc,
on peut être fier.
Voilà, tous les Saint-Cyriens de toutes les classes sont en tenue napoléonienne et on défile, on fait la fête. On,
oui.
Voilà. Et ça, c'est très important. Le pouvoir napoléonien sur les militaires, malgré tout, encore.
Toujours.
Toujours. Mm. C'est un homme qui a...
Mais il a toujours son aura, quand même.
Mais oui,
hein
mais il a toujours oui. son aura. Pourquoi
oui.
Parce,
oui.
parce que d'abord, vous vivez sur le code civil. Boum, c'est
qui,
lui.
Qui l'a créé.
Vous vivez sur le code pénal, boum, c'est lui.
Il y a les préfets.
Vous vivez sur les préfets, sur les prud'hommes, ben, sur les lycées.
Les universités.
N'oubliez pas les écoles d'enfants de trou.
Ah, mais c'est ça.
Vous allez l'oublier.
Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous.
Alors, les écoles d'enfants de trou.
On a encore un peu, mais ça vaut la peine.
Ça vaut la peine.
Ben, feu.
Voilà, je peux vous en parler puisque j'en étais.
Oui, oui.
Bon. Alors, les écoles d'enfants de troupe, au départ, hein, un peu sous Napoléon, ont été créées, non pas pour faire des assassins, bien entendu, comme certains le prétendraient maintenant, mais pour donner une éducation élitiste. D'accord ? Et là, c'était aussi pour une utilité, c'était que malheureusement, beaucoup de soldats mouraient à la guerre. Et les mamans se trouvaient avec des enfants. Et à l'époque, on ne faisait pas un.
Oui, c'était, oui, on avait beaucoup d'enfants.
On avait beaucoup d'enfants. Donc, Napoléon a permis que ces écoles d'enfants de troupes étaient réservées d'abord
aux enfants
de militaires.
Oui, c'est ça.
Et en général, soit des gens qui avaient obtenu la Légion d'honneur, qui avait une autre valeur que maintenant.
Oui.
Hein, voilà. Et... voilà, et comment dirais-je, et ceux qui étaient morts au combat.
Voilà. Hein,
donc les morts pour la France. Donc ces gens-là, ces jeunes pouvaient rentrer à partir
dans ces écoles, ouais.
Très tôt. Il y avait même une école des orphelins lorsqu'ils avaient perdu leur maman, voilà, qui s'appelait l'école Herriot, H-E-R-I-O-T, qui était gérée d'ailleurs moitié par des militaires et moitié par des bonnes sœurs.
Ah oui.
Voilà, parce que dedans il y avait des petits, hein, oui. Donc ils avaient besoin un petit peu de tendresse. On pouvait pas les mettre au garde à vous tout de suite. Mais les écoles que j'ai connues moi ont commencé en sixième.
D'accord.
En sixième, en tenue, hein, on était astreint à la discipline militaire, à marche au pas, patati patata, et on avait bien entendu un cursus scolaire qui était bien entendu, un des meilleurs.
Ah oui, hein. Ah oui.
Et j'en veux pour preuve qu'actuellement, par exemple, pour prendre un exemple de l'école d'Autun qui est proche de nous, l'école d'Autun fait régulièrement 100% de réussite au bac. Bac qui passe à l'extérieur, hein.
c'est pas à l'école.
Hein. C'est pas leur prof qui les corrige.
Mais c'est partout. Hein.
Donc c'est bien entendu, on a des professeurs qui sont aussi triés sur le volet, hein, et qui enseignent de façon différente, hein, complètement différente. D'abord parce qu'il règne une discipline. Vous vous levez lorsque le prof arrive, vous vous levez lorsque le prof part.
Oui, tout est perdu.
Vous demandez l'autorisation de parler. Beaucoup de choses, mais qui font que finalement ça arrange tout le monde. Mmh. Hein. Et je vous donne encore un autre exemple de et je terminerai par ça. Constamment, ces enfants sont obligés de réviser. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de chaque cours, le professeur peut décider de prendre 3 ou 4 élèves et de leur donner un sujet sur lequel il faut qu'ils parlent simplement d'un plan.
D'accord.
Et ce sujet, au mois de juin, il peut remonter à des cours d'octobre.
Oui, donc il faut avoir tout appris.
Il faut avoir tout appris et bien suivre. Voilà. Donc, ce qui fait la réussite, et ces gens-là, bien entendu, à l'époque, du moins à mon époque, on intégrait pratiquement tout. On faisait les grands concours de l'État. On passait par Saint-Cyr ou par l'école de l'air, etc., pour les scientifiques, etc. Donc, ça fournissait en même temps des cadres à l'armée,
d'accord,
qui étaient formés depuis le départ, j'allais dire.
D'accord.
Hein, voilà le truc de...
Merci, ça nous donne des idées pour le travail. On va travailler, commencer l'année en bossant un petit peu quand même.
Oui, mais bien entendu.
Il y a une phrase quand même qu'il faudrait dire en parlant d'Austerlitz.
Oui.
C'est-à-dire que il y avait un militaire qui dira « J'étais à Austerlitz » et qu'a répondu Napoléon.
Oui, il a dit c'est un brave.
Voilà, on dira c'est un brave. Voilà.
Nous commençons donc avec les braves.
Avec les braves.
Et à la technique, ce sont aussi des braves. Et nous remercions Jimmy. Et monsieur le jeune stagiaire, bonjour. Et puis, merci, cher Denis.
Merci de votre patience.
Merci. Non, c'était un coup de force.
Et du supplice de m'avoir écouté.
En une petite heure, c'est pas facile à tout faire passer.
Ah, oui. C'était une grande bataille, quand même.
Merci, Gisèle. Bonne année, bonne continuation.
Merci,
et nous partons
à toi
maintenant.
Aussi.
Merci. Et en route avec la marche de Radetzky. Je m'excuse, mais c'est Europe. En avant.
C'est l'Autriche.
Merci.